Bonjour, mes frères et sœurs. Une partie importante de la Bible, et c'est peut-être un euphémisme, est consacrée au thème du péché. Je suis sûr que la plupart d'entre vous conviendront que Dieu consacre à juste titre une grande partie des Écritures au thème du péché. La parole de Dieu définit ce qu'est le péché. Il donne des exemples clairs et met également en garde contre l'impact et les conséquences pour ceux qui commettent le péché. C'est pour ces raisons que nous abordons fréquemment ce sujet dans nos messages, nos études bibliques, les documents que nous produisons, nos articles, nos magazines et ce que nous publions sur nos sites web. Vous pensez peut-être peu aux conséquences du péché, à l'esclavage, mais Jésus a enseigné que quiconque commet le péché s'est rendu esclave de celui-ci. Nous tombons dans l'esclavage à cause du péché. La maladie et les malédictions, encore et encore dans les Écritures. David a en fait chanté une chanson dans laquelle il disait qu'il n'avait aucun repos, aucun shalom, c'est le mot qu'il utilise ici, dans ses os à cause de ses péchés. Il disait que ses blessures empestaient à cause du péché. Le péché conduit à la séparation. Ésaïe nous dit que le péché provoque la séparation entre l'humanité et son Créateur. Le péché pousse Dieu à cacher son visage aux hommes. Non seulement il y a l'esclavage, la maladie et les malédictions, non seulement il y a la séparation entre l'humanité et Dieu à cause du péché, mais il y a aussi le jugement et la colère. L'apôtre Paul a averti que la colère de Dieu se révélera contre toute impiété, toute injustice, toute forme de péché. Mais ce n'est pas tout, il n'y a pas que le jugement et la colère. Le prix ultime sera payé par ceux qui pêchent contre Dieu, et c'est la destruction éternelle, la mort. L'apôtre Paul a dit à l'église de Rome que le salaire du péché est finalement la mort. Il existe des centaines, des milliers de versets qui définissent le péché, en donnent des exemples ou, comme je viens de le dire, mettent en garde contre ses conséquences. Cependant, mon objectif aujourd'hui n'est pas de définir le péché, ni d'énumérer autant de péchés que possible dans le temps qui m'est imparti. Je n'ai pas l'intention de discuter des terribles conséquences du péché sur nos vies. Je ne veux pas parler de l'impact horrible qu'il a non seulement sur nos vies, mais aussi sur celles des personnes qui nous entourent lorsque nous commettons un péché. Non, aujourd'hui, je veux parler de ce qui pourrait être considéré comme l'information la plus importante que la Bible nous donne sur le péché, ce qu'il alimente et comment le couper à la source. Je compare le péché au cancer. Le péché et le cancer sont tous deux un fléau pour l'humanité. Il existe aujourd'hui des types et des nombres de cancers sans précédent. Quiconque a lutté contre le cancer connaît ou est familier avec les études qui suggèrent que certains cancers se développent grâce à des sources d'énergie spécifiques, comme les sucres ajoutés ou les glucides raffinés. Les personnes qui suivent un traitement contre le cancer réduisent leur consommation de sucres ajoutés. Je ne parle pas des sucres naturels présents dans les aliments naturels, mais des sucres ajoutés ou des glucides raffinés. Elles s'en abstiennent pendant leur traitement contre le cancer, afin d'essayer de détruire ce fléau. Alors, qu'est-ce qui alimente le péché? Ce ne sont pas les sucres ajoutés. Ce ne sont pas les glucides raffinés. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus, car nous y reviendrons dans un instant, lorsque l'apôtre Paul révèle l'une des sources d'alimentation aux Galates, mais juste avant ou juste après, il énumère la fornication, l'impureté, la lascivité et l'idolâtrie. Pensez à l'idolâtrie. Pensez à Salomon. Il a laissé l'idolâtrie se répandre dans le royaume d'Israël, et en conséquence, le royaume a été divisé en deux. La haine. Quand nous parlons de haine, vous pouvez penser à Caïn et à la façon dont il a manifesté sa haine de la manière la plus odieuse qui soit envers son frère Abel. Ou Jonas. Jones avait une telle haine envers les Ninivites qu'il a demandé à Dieu de commettre un génocide contre tout un peuple. La colère. Pensez à Moïse lorsqu'il a frappé le rocher au lieu de lui parler, ce qui lui a coûté l'entrée dans le royaume, dans la terre promise. Pensez à la discorde. Il n'y a probablement pas de meilleur exemple que celui d'Ésaü et de son frère Jacob. Voilà un exemple de discorde entre deux frères nés des mêmes parents. Puis il continue, Paul dans Galates, les séditions. Absalom, il voulait saper le règne de son père en tant que roi d'Israël et prendre le pouvoir. L'envie. Repensez à Caïn. Le meurtre. Repensez à Moïse. Qu'est-ce qui l'a poussé à penser que tuer un Égyptien était justifiable? Qu'est-ce qui a alimenté cela? L'ivrognerie. Vous pouvez penser à Noé et au récit spectaculaire qui s'est produit à la suite de son ivresse. Vous pouvez penser à l'eau. Son ivrognerie l'a conduit à commettre l'inceste. Des choses horribles auxquelles nous pensons. Les hérésies. Nous le voyons dans le Nouveau Testament écrit par de nombreux auteurs du Nouveau Testament, les apôtres, mais au fil des siècles, au fil des époques de l'Église, même aujourd'hui, d'anciens ministres et leurs épouses. Qu'est-ce qui les poussait à adopter une pensée hérétique? L'apôtre met alors en garde. Je vous le dis, c'est une longue liste, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. C'est pourquoi Paul, ainsi que Dieu et tous les autres auteurs, ont été inspirés à mettre autant l'accent sur le péché, car les conséquences sont spectaculaires. L'expression « ceux qui font cela » est perso, ce qui signifie « pratiquer ». Accomplir de manière répétée ou habituelle. Ce n'est pas poyéjo, qui signifie que cela peut se produire à certaines occasions. Mes frères, nous pouvons tomber dans le péché à certaines occasions. Nous tomberons dans le péché à certaines occasions, mais quelles sont les sources qui nous poussent à pratiquer le péché? Nous pouvons tomber dans le péché à tout moment, mais Dieu ne veut pas que nous le pratiquions. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Commençons par la mauvaise. Le péché repose sur trois sources d'alimentation. Comme je l'ai dit, trois sources d'alimentation, combien d'entre vous pensent peut-être à Satan, à la société et à soi-même? Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas cela. Quand je vous dirai quelles sont ces trois sources d'énergie, vous direz, bien sûr, bien sûr. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Car je compare ces sources d'énergie au gaz naturel ou à l'électricité. Elles sont très difficiles à détecter sous leur forme naturelle. Nous ne reconnaissons ces sources d'énergie, le gaz naturel, le propane ou l'électricité, que lorsque nous voyons la flamme sur notre cuisinière ou que nous voyons les lumières s'allumer dans la maison lorsque nous actionnons un interrupteur. C'est ainsi que nous avons la preuve que l'électricité existe ou que le gaz naturel, existe. Combien d'entre vous ont vu des vidéos des conséquences tragiques d'une explosion de gaz majeur, une destruction totale, ou des vidéos de personnes qui, sans le savoir, ont marché dans une flaque d'eau où se trouvait un fil électrique sous tension, et où les gens ont assisté avec horreur à la mort rapide de ces personnes par électrocution. Nous avons tous vu ce genre de choses. Il en va de même pour le péché. Il est facile de voir le péché et les ravages et la destruction qu'il cause, non seulement dans notre propre vie, mais aussi dans celle de notre entourage, mais ces sources d'alimentation sont presque aussi difficiles à détecter que l'électricité et le gaz naturel. Si nous les détectons, il est souvent trop tard. Malheureusement, les gens ne se rendent compte que ces sources d'énergie alimentaient leur vie qu'après avoir péché, après s'être éloigné de Dieu ou, dans les cas extrêmes, après être mort spirituellement. Nous avons vu ces trois cas se produire. Alors, qu'est-ce qui alimente tous ces péchés que j'ai mentionnés, et certains autres que je n'ai pas encore mentionnés, mais que je mentionnerai peut-être au cours de ce message? Passons à la première épître de Jean, chapitre 2, première épître de Jean, chapitre 2. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés, le sujet ici des péchés, sont pardonnés pour son nom. Le contexte est donc le péché. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes hommes, parce que vous avez vaincu le malin. C'est une affirmation, mais je l'ai exprimée sous forme de question. C'est intéressant. L'apôtre Paul affirmait qu'ils avaient vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, poursuit-il, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et vous, dit-il encore, vous avez vaincu le malin. Jean ne suggère pas seulement, mais affirme à deux reprises que nous avons vaincu Satan, ce qui signifie que Satan n'est pas notre ennemi le plus dangereux. Et vous pouvez dire la même chose de la société. La société n'est pas notre ennemi le plus dangereux, mes frères. Quand nous parlons de société, nous parlons essentiellement du monde. Si nous passons au chapitre 5, le même apôtre, Jean, dit que nous avons vaincu le monde. Nous avons vaincu la société. Dans sa prière au Père, Christ a dit, « Nous ne sommes pas du monde. Nous avons été appelés hors du monde, mes frères. » Christ nous a comparés à lui-même. Dans sa prière, il a demandé au Père de ne pas nous retirer du monde, mais de nous préserver du mal. C'est là le point essentiel. Mes frères, c'est en partie pour cette raison que je vous adresse ce message. J'espère que ce que vous apprendrez aujourd'hui sera une réponse à votre prière. Pensez à Israël. Dieu a délivré Israël de l'emprise du Pharaon, qui symbolisait Satan. Dieu a délivré Israël du pays d'Égypte, qui symbolisait le monde. Ce que je veux dire, c'est que le pire ennemi d'Israël dans le désert n'était pas Satan, ni le Pharaon, ni même l'Égypte, qui symbolisait le monde. Le pire ennemi d'Israël, c'était lui-même. Et frères, c'est aussi notre cas. Nous pouvons être nos pires ennemis ou nos propres pires ennemis. En fait, au chapitre 1 de ce même livre, il est dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Alors, frères, qu'est-ce qui motive le péché? Qu'est-ce qui l'alimente? Au verset 15, il vient de finir de parler à l'homme, aux jeunes gens, mais à vous tous, à tous ceux qui ont vaincu Satan et sont sortis de ce monde, il dit au verset 15, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais du monde. Mes frères, chaque péché, du plus petit au plus grand, qu'il viole les quatre premiers commandements qui régissent notre relation avec Dieu ou les six derniers commandements qui régissent notre relation les uns avec les autres, avec nos semblables, nos péchés trouvent leur origine dans la convoitise de nos yeux, dans la convoitise de notre chair et dans l'orgueil de la vie. Maintenant, vous le savez. Je vous ai dit que vous pensiez peut-être, bien sûr, bien sûr. C'est bien. Nous pouvons sans risque lire le verset 16 de cette manière, car tout péché qui est dans le monde est le résultat, est causé, est alimenté par ces deux types de convoitise et l'orgueil de la vie. C'est ce qui afflige ce monde, en fin de compte. Les carburants qui circulent librement et qui causent le péché, ou plutôt, le non-respect des jours fériés, les jours fériés du monde. Nous approchons de la période de Noël. Ne pas observer Noël, facile. Ne pas manger de viandes impures, pas de problème. Assister aux offices le samedi, pas trop difficile, mais pourquoi avons-nous du mal avec d'autres péchés? Pourquoi y sommes-nous? Pourquoi sommes-nous en proie à la jalousie, aux querelles, aux disputes, à la cupidité, à la vanité? Celui qui dit qu'il est sans péché se trompe lui-même. Qu'est-ce qui me pousse parfois à avoir une attitude moralisatrice? Pourquoi sommes-nous parfois amenés à choisir le plaisir plutôt que l'obéissance à Dieu? Parce que nous ne parvenons pas à couper toutes ces sources d'énergie, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Mais je vous ai dit qu'il y avait une bonne nouvelle. Vous et moi pouvons les éliminer toutes. Nous pouvons couper les interrupteurs, les disjoncteurs principaux. Nous pouvons fermer les vannes et empêcher ces trois choses de couler dans nos vies. Et si nous faisons cela, nous étouffons essentiellement le péché dans nos vies. Pensez aux avions, aux trains, aux automobiles ou aux plus grosses machines que vous pouvez imaginer, aux avions de chasse les plus chers que le gouvernement américain, chinois, français ou russe puisse développer et concevoir. Si ces engins n'ont pas de carburant, ils ne vont nulle part. Si le péché n'a pas ses sources d'approvisionnement, le réservoir est vide et il ne va nulle part, et nous réussirons. Mes frères, mon travail, notre travail en tant que ministère dirigé par M. Pack, est de vous donner les instructions nécessaires pour éliminer la luxure, pour éliminer l'orgueil de votre vie, car c'est la seule façon d'éviter le péché. La plupart d'entre nous ont déjà entendu l'expression « simplicité en Christ ». Combien de fois l'avons-nous entendue? De très nombreuses fois. Mais combien se souviennent du contexte de cette déclaration ou de cette phrase que Paul a donnée aux Corinthiens? Certains ne se souviennent peut-être même pas où elle se trouve. Il s'adressait aux Corinthiens. Cette expression, la simplicité qui est en Christ, s'applique bien sûr à presque tous les domaines de notre vie, mais quel était le contexte de cette expression et comment peut-elle être liée à ce dont nous parlons? Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11. Deuxième épître aux Corinthiens, 11. Silence, au verset 1, je voudrais que vous supportiez un peu ma folie, et en effet, supportez-moi. Car je suis jaloux, j'ai un zèle divin pour vous tous. Car je vous ai fiancé à un seul époux. Quelle belle et éloquente façon de décrire notre relation avec Christ. Afin de vous présenter à lui comme une vierge pure. Mais je crains que, comme le serpent a séduit Ève par sa ruse, vos esprits ne soient corrompus et détournés de la simplicité qui est en Christ. Le contexte de cette phrase très familière est ce qui s'est passé entre Satan et Ève dans le jardin. L'apôtre Paul établit un parallèle puissant entre Ève, la femme d'Adam, et nous, l'épouse du Christ. Et il donne ici un indice aux Corinthiens, qui en avaient grandement besoin, qui nous mènera aux instructions sur la manière de couper efficacement les sources d'énergie du péché. Revenons donc au jardin. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Si nous comprenons cela, cela nous mènera aux instructions dont nous avons besoin. Genèse chapitre 2. Nous allons comprendre comment la simplicité qui est en Christ nous aide lorsqu'il s'agit de la convoitise et de l'orgueil. Genèse chapitre 2, verset 8. Et le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Et au verset 15, « Descendons là-bas, et le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et le Seigneur Dieu donna cet ordre, ce mot est utilisé 494 fois dans la Bible, mes frères. C'est la première fois. Quand nous parlons des commandements de Dieu, Dieu a ordonné à telle ou telle personne ou à Israël, c'est le mot qui est utilisé. C'est la toute première fois que ce mot est utilisé. Dieu donna cet ordre à l'homme, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dieu a donc tracé une ligne et il attendait d'Adam et de sa femme Ève qu'ils respectent cette ligne. En fait, dans Genèse 3, nous allons nous y rendre, Genèse chapitre 3, à seulement une ou deux pages dans vos Bibles, Ève a répété ce commandement presque mot pour mot à Satan, au serpent. Je n'ai jamais eu l'occasion de parler à Satan. Je ne l'ai jamais vu face à face. Elle, oui. Et elle a pris un excellent départ. Genèse 3, verset 2, la femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais Dieu a dit, « Vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » C'est là que réside le problème. Nous connaissons les commandements de Dieu, mes frères. Nous allons jusqu'à mémoriser des versets pour nous aider dans notre cheminement chrétien. C'était pratiquement un verset mémorisé pour rêver, si je puis m'exprimer ainsi. Elle l'a répété presque mot pour mot. Nous mémorisons des versets qui nous guident dans nos actions. Je peux tout faire en Christ, qui me fortifie. Nous avons des versets mémorisés sur ce que nous ne devons pas faire. Ne vous conformez pas au monde présent. Ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence, des versets que j'ai mémorisés. Comment se fait-il alors que nous dérapions si nous savons, si nous mémorisons ce qu'il faut faire et ne pas faire? Entrez Satan. La subtilité, vous vous souvenez? L'apôtre Paul explique que lorsque vous mélangez la convoitise des yeux avec la convoitise de la chair et que vous y ajoutez l'orgueil de la vie, ils conçoivent le péché, et ensuite le péché donne naissance à la mort. Eh bien, Satan, je vais l'appeler la douleur de la mort. Vous savez ce qu'est une douleur? C'est une accompagnatrice à la naissance. Elle est là pour aider les femmes à accoucher. Satan, en fin de compte, si vous voulez vraiment résumer les choses, est une douleur de la mort. Il n'a pas grand-chose à voir avec le fait que nous concevions le péché. Il doit simplement nous inciter à le porter en nous. Et il sait ce qui le provoquera, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Il est toujours là pour nous aider à accoucher du péché. Verset 4. Et le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez certainement pas, car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » En d'autres termes, ne t'inquiète pas, Ève. Dieu ne pensait pas ce qu'il disait. Tout le monde va au paradis, comme le dit le monde. Personne ne va dans un faux enfer. Tout cela pour nous amener à quoi? À ouvrir nos propres vannes. Quoi? Si c'est le cas, laissez-moi reconsidérer les choses. Verset 6. Et lorsque la femme vit que l'arbre était bon à manger, la convoitise de la chair, et qu'il était agréable à la vue, la convoitise des yeux, et un arbre désirable pour rendre sage, l'orgueil de la vie, pour être comme Dieu, elle prit le fruit. Je ne sais pas si elle l'a touché. Elle l'a mangé, et ici, il est dit, et elle en donna aussi à son mari. En d'autres termes, Adam ne l'a même pas pris sur l'arbre, d'après ce que je peux lire ici. Il l'a pris de la main de sa femme. Mes frères, Satan sait que pour nous tuer, nous devons commettre le péché. Et Satan n'a pas tendu le fruit à Ève. Il savait mieux que quiconque. Il n'allait pas toucher ce qu'il savait ne pas devoir toucher. Ève devait s'approcher de l'arbre, elle devait le regarder, Elle devait désirer son fruit pour se satisfaire, et finalement, elle devait le prendre. Tout ce que Satan a fait, c'est l'inciter à céder à sa convoitise et à son orgueil et à agir en conséquence. Et c'est ce que la convoitise et l'orgueil peuvent faire à chacun d'entre nous, mes frères. Lorsque la convoitise des yeux et la convoitise de la chair commencent à agir, vous perdez soudainement de vue toutes les options possibles. Pouvez-vous imaginer les centaines, voire les milliers d'options dont Ève disposait dans le jardin? Et je dirais qu'elle n'était probablement pas affamée à ce moment-là. Elle avait peut-être un peu faim, mais elle avait tellement d'options. Savez-vous ce que la convoitise des yeux peut faire? Elle peut rétrécir notre vision, et nous devenons alors obsédés. Notre corps commence à avoir envie, ou son corps a commencé à avoir envie de ce qu'elle ne devait pas toucher. Quoi qu'il en soit, elle a ouvert les vannes, et la convoitise de la chair a commencé à couler. La convoitise des yeux coulait, et certainement l'orgueil de la vie. Je pense à Cape Canaveral ou au centre spatial de Houston. Nous avons tous entendu cela juste avant un lancement, pendant le compte à rebours. La convoitise de la chair, c'est parti. La convoitise des yeux, c'est parti. C'était une source d'énergie juste avant le lancement. Ève ne peut pas se sortir de la tête le commentaire de Satan sur le fait d'être comme des dieux. Elle n'arrête pas d'y penser. Alors Satan la regarde appuyer sur le dernier bouton. Et que dit-on à Houston ou à Cape Canaveral? Nous avons décollé. Elle veut, elle désire, elle se raisonne. Elle s'estime comme Dieu. Elle s'estime plus haut qu'elle ne l'était en réalité. Et mes frères, le péché, la désobéissance à Dieu, qui est-ce qu'est le péché, a été conçu et la mort est née. Que dit Jacques, l'apôtre Jacques, à ce sujet? Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1, verset 13. Silence, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente personne. Mais chacun est tenté lorsqu'il est attiré et séduit par sa propre convoitise. Puis, lorsque le désir a conçu, il enfante le péché. Et le péché, lorsqu'il est accompli, enfante la mort. Frères et sœurs, la mort, exactement ce que Dieu a dit. Que pensez-vous que Paul craignait qu'il arrive si l'esprit des Corinthiens s'éloignait de la simplicité qui est en Christ? Ce qu'il craignait pour les Corinthiens, c'était la mort éternelle. Il les suppliait de protéger leur esprit afin qu'ils ne s'éloignent pas de la simplicité qui est en Christ. Mais qu'est-ce que cela signifie? Allons à Matthieu chapitre 4. Car nous pouvons maintenant comparer Ève et ce qui lui est arrivé avec Christ et ce qui lui est arrivé dans le désert. Matthieu chapitre 4. J'ai dit que le chemin nous mènerait aux réponses ou aux instructions sur la manière d'éteindre ou de couper ce qui alimente le péché. Et ce chemin nous mène directement à Christ. Matthieu chapitre 4, verset 1. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. C'est un euphémisme. 40 jours sans manger. Et lorsque le tentateur vint à lui, il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, considère-toi comme un véritable précurseur. Je m'adresse au Fils de Dieu, n'est-ce pas ? Il veut que Jésus commence à penser à lui-même, au Christ, en lui offrant son titre. Ordonne que ces pierres deviennent du pain. La convoitise de la chair. Il l'attaque alors qu'il est faible. Mais il répondit et dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est une déclaration générale. Mais nous allons examiner des exemples spécifiques de ce que Dieu dit concernant la convoitise de la chair. Alors le diable l'emmena dans la ville sainte, le plaça sur le pinacle du temple et lui dit, « Si tu es le fils de Dieu, considère qui tu es, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera à ses anges la charge de te garder. Tu ne peux pas être blessé. Tu es membre de la famille de Dieu. Tu as peut-être une forme humaine, mais n'oublie pas que tout ce qui est en ton pouvoir, ou en ta capacité, est en ton pouvoir. » Et ils lui dirent, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Frères et sœurs, l'orgueil de la vie. Jésus lui répondit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Réfléchissez un instant, une personne qui tend Dieu doit penser qu'elle est égale ou supérieure à Dieu. Nous allons examiner des passages des Écritures qui nous aideront à éviter cela également. Verset 8. Et de nouveau, le diable l'emmena sur une montagne extrêmement haute et lui montra tous les royaumes du monde, il les lui montra afin qu'il puisse les voir et leur gloire. La convoitise des yeux. Et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Alors Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Et Dieu prescrit également dans sa parole comment couper la source qui alimente l'orgueil de la vie. Mes frères, nous allons examiner cela. Cela, mes frères, c'est la simplicité en Christ. Coupez les sources qui alimentent le péché et vous ne le commettrez pas. Revenons à Jacques 1. J'ai sauté un verset exprès. Quelle connaissance extraordinaire avons-nous sur le fait d'être bénis ? Comment le fait d'être béni maintenant indique-t-il que nous ferons partie de la famille éternelle de Dieu ? Réfléchissez-y. Souvenez-vous de la fantastique liste de choses que M. Pack nous a données. Si nous les faisons maintenant, elles nous placent dans une condition bénie avant l'arrivée du royaume. Eh bien, le verset qui précède ce que nous venons de lire nous dit également quelque chose d'extraordinaire. Verset 12. Heureux l'homme qui supporte l'épreuve. Car, lorsqu'il aura été éprouvé, c'est-à-dire accepté ou approuvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Voyons cela un instant. Que signifie selon vous le mot béni ? Makario. Extrêmement béni, heureux. Heureux les pauvres en esprit, nous a enseigné M. Pack. Heureux ceux qui pleurent. Heureux ceux qui sont doux. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Heureux ceux qui ont le cœur pur et heureux ceux où quiconque supporte la tentation. Mes frères, nous ne pouvons pas nous laisser détourner par nos propres convoitises et notre orgueil, comme nous le lisons au verset 14. Car si nous accomplissons ce que Dieu nous demande, nous serons couronnés très bientôt. Pensez-y. Avec la couronne de vie. Pensez à ce moment. Quand une couronne de vie sera placée sur votre tête, méditez là-dessus. Pensez à ce moment. Maintenant, pensez à ce qu'il faut pour y parvenir. Alors restons simples. Pour être bénis, nous devons également permettre que la convoitise et l'orgueil soient éliminés. Nous devons les éliminer, les supprimer, supprimer la source d'énergie qui alimente le péché. Et nous ne pouvons pas laisser la convoitise de nos yeux ou la convoitise de notre chair ou l'orgueil de la vie diriger nos pensées, nos paroles ou nos actions. Parfois, nous réfléchissons trop, frères et sœurs. Nous perdons beaucoup de temps à naviguer entre les problèmes que nous avons dans notre vie. Je dois vous dire que c'est presque comme un labyrinthe de miroirs et de fumée. Lorsque nous conseillons les gens, dans presque 100% des cas, nous essayons d'aider le propriétaire à couper une ou plusieurs des trois sources d'alimentation. Comment ? Je me demande si certains d'entre vous savent même où se trouve le disjoncteur dans leur maison. Je ne le savais pas quand j'étais enfant. J'ai dû l'apprendre. Demandez-moi où se trouvent les vannes d'eau ou demandez-vous où se trouve la conduite principale de gaz qui alimente votre maison. Eh bien, mes frères, nous allons définir chacun d'entre eux. Nous allons décrire certains des désirs principaux de chacun d'entre eux. Nous allons énumérer certains des péchés associés qui se recoupent les uns les autres. Ensuite, nous examinerons des versets qui nous aideront à les éliminer. Voici les instructions. Commençons par la convoitise des yeux. Vous vous souvenez? Agréable à voir. Voici une définition. Vous pouvez vous baser là-dessus. La définition de la convoitise des yeux est le désir qui est éveillé par le fait de voir et de méditer. C'est assez simple. Le désir principal est d'avoir ou de posséder. Certains des péchés que vous pourriez associer à la convoitise des yeux sont la cupidité, le matérialisme, l'avidité, l'attirance pour les idoles, les personnes célèbres, les personnes belles. Eh bien, voici ce que nous pouvons faire à ce sujet. J'ai dit que nous allions passer au verset. Job 31. Job. Oui, Job. C'est inspirant à lire. Quelque chose que je n'oublierai pas facilement. Job 31, verset 1. J'ai fait une alliance avec mes yeux. Pourquoi donc penserai-je à une jeune fille? Quelle part de Dieu y a-t-il, et quel héritage du Tout-Puissant dans les cieux? Si j'ai fait alliance avec mes yeux et que je pense à une jeune fille, c'est un exemple d'un type de péché qui survient, la convoitise pour le sexe opposé, n'est-ce pas la destruction pour les méchants et un châtiment étrange pour ceux qui commettent l'iniquité? En d'autres termes, j'ai fait une alliance avec mes yeux parce que je sais quelle est la punition pour ne pas avoir respecté cette alliance avec mes yeux. Et savez-vous ce que signifie une alliance? Cela signifie simplement que vous avez pris une décision à l'avance, et non au moment de la tentation. Éliminez la convoitise des yeux, mes frères, avant de commencer chaque journée. C'est assez simple. Rappelez-vous cela. Job s'est rappelé la promesse qu'il avait faite de ne pas regarder ni fixer le sexe opposé. Il était conscient de ses yeux. Mes frères, sommes-nous attentifs à nos yeux? Pensons-nous à ces deux choses, ces objets qui se trouvent au centre de notre crâne, de notre cerveau, de notre tête? Mes frères, fixez-vous comme règle personnelle de ne pas regarder avec convoitise. C'est assez simple. Et rappelez-le-vous souvent. Rappelez-vous l'alliance que vous avez conclue avec vos yeux. Fixez-vous des limites avant de sortir en public ou de vous livrer à des activités en ligne. Rappelez-vous cela lorsque vous allez sur Internet. Peu importe que vous soyez au bureau ou dans l'intimité de votre foyer. Rappelez-vous, juste avant d'allumer votre ordinateur, d'ouvrir votre navigateur ou d'allumer la télévision de vos yeux, l'alliance que vous avez conclue avec vos yeux, l'engagement que vous avez pris. Répétez mentalement ce que vous ferez si vous êtes confronté à la tentation. Remarquez que Job a conclu une alliance qui l'obligeait à ne pas réfléchir à deux fois ni à regarder longuement une autre femme avec convoitise. Pourquoi? Mes frères, quoi que nous regardions, notre esprit y réfléchira, y pensera. Vos yeux peuvent rapidement passer de l'admiration, il n'y a rien de mal à admirer la beauté, à l'imagination. Cela peut se passer ainsi. C'est ce qui arrive lorsque nous nous attardons du regard et que nous rompons l'alliance que nous avons conclue. Passons au psaume 101. Psaume 101. Comment pouvons-nous conclure une alliance? Que pouvons-nous faire? À quoi cela ressemble-t-il? Psaume 101. Il s'agit du roi David. De nombreuses érudits bibliques disent qu'il s'agit d'un psaume de couronnement. Ils disent qu'il a été écrit avant qu'il ne pêche avec Bathsheba, qu'il a regardé pendant qu'elle se baignait sur le toit. Il déclarait ses engagements. Si vous lisez, il déclare son engagement en tant que roi. S'il avait seulement tenu compte de sa propre alliance, de ses paroles d'alliance avec ses yeux. Psaume 101, verset 2, « Je me conduirai avec sagesse, d'une manière parfaite. Oh, quand viendras-tu vers moi? Je marcherai dans ma maison avec un cœur parfait. » Verset 3, « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Il a fait une alliance. Il a déclaré qu'en tant que roi, ou bientôt roi, ou pendant son règne, il ne mettrait rien de mauvais devant ses yeux. Mes frères, je marcherai dans ma maison avec un cœur parfait. Vous devez marcher dans votre maison avec un cœur parfait. Comment? Faites une alliance avec vos yeux pour ne pas les exposer à des choses mauvaises. Cela s'applique donc au choix des médias ou des divertissements. Ne regardez pas de films ou de programmes télévisés avec des thèmes occultes, ou du contenu sexuel explicite, ou rempli de violence. Difficile d'éviter de nos jours. Nous devons parfois sauter des scènes. Je ne sais pas ce qu'une scène de sexe apporte réellement à un film, donc la sauter n'a aucune incidence sur l'intrigue. Non, non, en général, l'intrigue continue. Ce n'est qu'une pause. Évitez les clips musicaux. Si vous entendez une chanson avec des paroles déplacées, vous pouvez être sûr que le clip va illustrer de manière explicite ce dont il est question dans les paroles. Évitez les vidéos. Et j'ai parlé de la navigation sur Internet. Évitez les contenus qui alimentent la convoitise. L'idolâtrie. Pas seulement les choses sexuelles, la pornographie, la convoitise, l'adoration des idoles, le matérialisme, la fascination pour les choses interdites, les théories du complot, vos yeux commenceront à convoiter ces choses. Et vous cliquerez ici, et cela vous mènera là, puis là, et avant même de vous en rendre compte, la convoitise des yeux coulera à flot. Mes frères, utilisez des filtres ou des paramètres pour empêcher l'accès à des contenus explicites ou violents. Fermez-les. Respectez votre engagement. Apprenez à régler vos paramètres de sécurité si vous ne savez pas comment faire. Verset 6. Voici un moyen de l'empêcher. Cela fait donc partie de l'alliance avec vos yeux. Mes yeux seront sur les fidèles du pays, afin qu'ils demeurent avec moi. C'est important, mes frères. Faites alliance avec vos yeux pour les utiliser afin d'observer ce qui, dans l'Église, reflète les qualités des bénis. Recherchez la douceur et imitez-la. Recherchez ceux qui ont faim et soif de justice et passez du temps avec eux. Faites alliance avec vos yeux pour les utiliser plus souvent afin d'identifier les besoins des autres et moins souvent pour rechercher ce que vous voulez. Je le répète. Faites alliance avec vos yeux pour les utiliser plus souvent afin d'identifier les besoins des autres et moins souvent pour rechercher ce que vous voulez. Ces yeux peuvent être utilisés dans les deux buts. Que pouvez-vous faire d'autre? Pour respecter votre engagement, détournez les yeux. Cela peut sembler une solution simple et ridicule, mais c'est ce qu'il faut faire. Avez-vous déjà entendu parler de la coordination œil-main ou main-œil, ou si vous jouez au football ou à un sport qui utilise les pieds, de la coordination pied-œil ou pied-œil? Où que vos yeux aillent, vos mains se coordonneront pour les suivre. Où que vos yeux aillent, vos pieds se coordonnent avec vos yeux pour aller là où vos yeux vont. Si vous vous trouvez dans une situation qui, vous le savez, va ouvrir la vanne de la convoitise des yeux, détournez simplement le regard. Si je tourne la tête dans cette direction, tout mon corps finira par suivre. Et mes frères, Si cela fonctionne pour vos mains et vos pieds, ai-je besoin de préciser que cela fonctionne aussi pour les autres parties de votre corps? Réfléchissez-y. Les jeunes, les moins jeunes aussi. Et puis réfléchissez à l'impact que cela a, où que vos yeux aillent, vos mains, vos pieds et les autres parties de votre corps les suivront également. Alors, faites une alliance avec vos yeux. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, et nous allons continuer ici. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4. Une dernière chose, car souvent, les autres sources d'alimentation commencent ici. C'est pourquoi je passe plus de temps sur ce sujet que sur les autres. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 18. Nous ne regardons pas les choses qui se voient, mais celles qui ne se voient pas. Car les choses qui se voient sont temporelles, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles. Frères et sœurs, entraînez vos yeux à voir spirituellement, et non charnellement. Nous avons entendu parler du royaume dans le sermon précédent. Mes frères, voyez le royaume. Voyez-le avec vos yeux spirituels. Voyez la terre promise, si vous voulez. Voyez-la avec vos yeux. Voyez les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Voyez les villes que vous gouvernerez un jour. Développez vos yeux spirituels. Et plus vos yeux se développeront spirituellement, plus vos yeux charnels s'affaibliront. Frères et sœurs, tirez les leçons de l'erreur d'Ève et regardez l'exemple du Christ, cela nous aidera à éliminer ce qui alimente le péché de la convoitise des yeux. Maintenant, la convoitise de la chair. Bonne pour la nourriture. Vous vous souvenez d'Ève? Voici une définition pour vous. Les envies corporelles, l'appétit sensuel, l'excès. Le désir premier est de ressentir du plaisir physique ou de la satisfaction. Certains des péchés que nous pouvons y associer, encore une fois, cela se recoupe, l'adultère, la fornication, la haine, les querelles, les émulations, la colère, les disputes, les séditions, les hérésies, l'envie, le meurtre, l'ivrognerie, la gloutonnerie. Je voudrais souligner trois choses pour comprendre cela. Le problème d'Ève n'était pas qu'elle ait vu que le fruit était bon à manger. Il n'y a rien de mal à cela. Il est bon à manger. Sa plus grande erreur, même si c'était une erreur, n'était pas d'avoir été trompée par Satan. Il ne semble pas non plus que l'objectif immédiat de Satan était d'amener le couple ou Ève à lui obéir et à l'adorer, même si nous savons que Satan aurait apprécié cela, mais ce n'était pas son objectif principal. Non. Commençons par le commencement quand il s'agit de Satan et de sa subtilité. Il incite subtilement les gens à rejeter Dieu et à commencer à obéir à un autre Dieu ou à d'autres dieux que Satan finit par diriger. Je vais vous expliquer cela. Et voici comment je vais vous l'expliquer. Quel Dieu Satan aimerait-il que vous et moi obéissions en premier? Pas lui. S'il se présentait et disait, « Je veux être votre Dieu », je répondrais, « Non. Désolé. Vous n'êtes pas qualifié, mais il est plus subtil que cela. » Philippiens, chapitre 3. Philippiens, chapitre 3. Je vous laisse trouver le passage. Verset 17. Frères et sœurs, soyez mes imitateurs, ainsi que Marc, dans le bon sens du terme. Visez, regardez, c'est ce que signifie le mot Marc. Ceux qui marchent ainsi, comme lui, comme vous nous avez pour exemple. Car beaucoup marchent, comme je vous l'ai souvent dit, et je vous le dis même en pleurant, comme des ennemis de la croix du Christ. Des ennemis de la croix du Christ, comment les décrirait-il? Ceux dont la fin est la destruction, dont le Dieu est leur ventre, dont la gloire est leur honte, qui ne pensent qu'aux choses terrestres. Satan voulait et veut que nous laissions la convoitise de notre chair gouverner notre pensée et nos décisions, à commencer par notre ventre, mes frères. C'est ce que Paul voulait dire quand il a dit, « Oh, je crains que la ruse du serpent ne vous affecte comme elle a affecté Ève. » Ne laissez pas vos esprits se corrompre loin de la simplicité qui est en Christ. Satan utilise nos propres besoins physiques, comme manger, pour nous amener à désobéir à Dieu. L'apôtre Paul a dit aux Romains, « Ne savez-vous pas que vous êtes esclaves de celui à qui vous vous soumettez pour lui obéir ?» Nous pouvons nous retrouver à obéir à notre ventre, et encore une fois, mes frères, à d'autres membres de notre corps, ce qui explique pourquoi la convoitise de la chair alimente tant de péchés. Nous avons ce désir intense si nous laissons le carburant de la convoitise de la chair couler pour nous satisfaire. La gratification personnelle. Ève a obéi à son ventre et a supplanté l'autorité de Dieu sur elle. Adam a accepté quand Ève le lui a donné. Son ventre et sa femme ont supplanté l'autorité de Dieu sur lui. Que cela vous serve de leçon, frère. J'ai vu des gens, hommes ou femmes, qui, lorsqu'ils ont du mal à attendre le partenaire ou le conjoint parfait que Dieu leur réserve, quittent l'Église, se marient, pensant qu'ils pourront simplement se remettre en selle une fois qu'ils auront fait cela. C'est à ce point extrême, car ils ont ce désir physique ardent d'être avec quelqu'un. Quelle autre raison pourraient-ils avoir? Ils peuvent trouver l'amour, fraternel, dans l'Église. Une partie de ce qui les motive est sans doute le besoin d'avoir une satisfaction physique d'être avec quelqu'un. Cela peut devenir puissant, parfois irrésistible. Christ, en revanche, si vous vous souvenez bien, a refusé ce que chaque cellule de son corps réclamait à grands cris. Son corps aspirait à un soulagement physique, pas seulement à une satisfaction. Il faut vraiment méditer sur l'intensité de ces pulsions qui voulaient s'exprimer dans la vie du Christ à ce moment-là. Mes frères, nous pouvons vaincre, tout comme Christ l'a fait, les péchés de la chair. Et il nous dit comment les éviter. Il nous dit de les éliminer. David est passé de la convoitise de Bathsheba avec ses yeux à la soif de satisfaction physique personnelle. Cela a commencé par la convoitise des yeux, puis, je peux vous le dire, aussi sûrement que je suis debout ici, aussi sûrement que vous êtes assis là, la convoitise de la chair a commencé à le submerger. Et ce qu'il voyait, il voulait en tirer une satisfaction personnelle immédiate. Et il a commis l'adultère. Et cela coulait tellement fort que, nous y reviendrons, l'orgueil de la vie. Bien sûr, il pouvait coucher avec Bathsheba. Il était le roi d'Israël. Le problème, c'est qu'il était devenu le roi de lui-même. Le problème, c'est que sa chair le dominait. Et c'est là que réside sa chute. Il aurait pu employer une tactique bien connue. En fait, il avait forcément lu cela en tant que roi d'Israël, mais il n'a pas appliqué ce qu'il savait déjà. Genèse 39. Nous y reviendrons très rapidement. Genèse 39, nous connaissons assez bien ce récit. Le récit de Joseph et de la femme de Potiphar. Encore une fois, David aurait dû lire cela. Verset 4, Joseph trouva grâce aux yeux de Potiphar, et il le servait. Potiphar le mit à la tête de sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Et il arriva, depuis qu'il l'avait établi sur sa maison et sur tout ce qu'il avait, que l'Éternel bénissait la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et que la bénédiction de l'Éternel était sur tout ce qu'il avait dans la maison et dans les champs. Il arriva, après ces choses, que la femme de son maître jeta les yeux, ô convoitise des yeux, sur Joseph, et elle dit, « Couche avec moi, convoitise de la chair. » Mais il refusa. Et il commença à raisonner avec elle, verset 9, « Il n'y a personne dans cette maison qui soit plus grand que moi, et il ne m'a rien caché, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je donc commettre ce grand mal et péché contre qui? Non seulement contre Potiphar, mais contre Dieu. Est-ce que cela l'arrêta? Est-ce que cela l'aida à comprendre qu'elle devait mettre fin à ce qui la poussait à l'adultère? La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, verset 10. Et il arriva, comme elle parlait chaque jour à Joseph. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais ce n'était pas un événement isolé, il ne l'écoutait pas pour coucher avec elle. De coucher avec elle, ou d'être avec elle. De la satisfaire d'une manière ou d'une autre. Elle était absolument déterminée. Et la tentation était incessante. Et il arriva, à cette époque, que Joseph entra dans la maison, et aucun des hommes de la maison n'était là, et elle le saisit par son vêtement en disant, « Couche avec moi ». Il laissa son vêtement entre ses mains, et le texte utilise probablement l'un des mots les plus puissants qui soit pour décrire la convoitise de la chair, « s'enfuit ». C'est pourquoi, face à la convoitise de la chair, on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas la raisonner. Il faut simplement s'enfuir. Et il s'enfuit. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit à propos des yeux? Vous tournez vos yeux vers la sortie, et devinez ce qui va suivre. Tous les autres membres de votre corps. David le savait, il l'avait lu. Il aurait pu s'enfuir par la fenêtre d'où il regardait, ou par le toit d'où il observait. Il aurait pu fuir la situation, mais il ne l'a pas fait. C'est la même chose que nous devons faire. Lorsque nous ressentons la convoitise de la chair, notre alarme spirituelle se déclenche. Si quelqu'un déclenchait l'alarme incendie, où que vous soyez assis, ici au siège, quelqu'un déclenche l'alarme incendie, que pensez-vous que nous ferions? Nous nous enfuirions. Nous n'allons pas rester assis là et laisser l'alarme retentir. Mes frères, notre alarme spirituelle devrait se déclencher. Et quelle est la seule chose que nous devrions faire? Deuxième épître à Timothée, chapitre 2. Allons-y très rapidement. Deuxième épître à Timothée, chapitre 2. Voici ce que l'apôtre Paul a dit au jeune Timothée, évangéliste. Deuxième épître à Timothée, chapitre 2, verset 22. Parmi toutes les autres choses que je t'ai dites, voici un autre conseil. Fuis aussi les convoitises de la jeunesse. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens de manière un peu plus claire, fuyez la fornication. Nous évitons ou échappons au piège du diable, si vous regardez le verset 26, lorsque nous fermons la porte à la convoitise de notre chair. Et comment fermons-nous la porte à la convoitise de notre chair? C'est simple, en fuyant. En fuyant ce qui nous pousse à ouvrir cette vanne et à laisser couler ce carburant. Dans toutes les situations, il ne s'agit pas nécessairement de péché sexuel. Mes frères, s'il s'agit d'hérésie, levez-vous et partez. Si nécessaire, signalez-le à votre pasteur. Signalez-le à votre siège social. Ne vous y attardez pas. Conflit ou discorde. Si vous vous trouvez avec des frères, au travail ou chez vous, et que des conflits et des discordes commencent à vous envahir, à submerger votre esprit, vos pensées et vos actions, éloignez-vous avec douceur. Heureux les doux de ce monde. S'il s'agit de haine ou de colère, partez et calmez-vous. Je ne vous dis pas de fuir les problèmes, mais de vous éloigner pour vous calmer, puis de revenir et de régler la situation. Mes frères, détournez vos yeux, détournez votre nez, détournez votre bouche, détournez vos mains et vos pieds, et toutes les autres parties de votre corps, et partez. C'est ce que vous devez faire. Les études sur le cancer que j'ai mentionnées au début suggèrent également qu'un moyen efficace de prévenir et de combattre certains cancers est de les affamer. Ce n'est pas la seule façon de traiter le cancer, bien sûr. Mais vous les privez de certaines sources d'énergie, comme les glucides raffinés et le sucre que j'ai mentionné précédemment. Prenons par exemple ce que font les gens lorsque leur barbecue au propane prend soudainement feu. Lorsqu'un fil électrique sous tension se trouve dans une flaque d'eau, vous pouvez voir les étincelles. Nous devons faire ce que tout autre professionnel ferait, c'est-à-dire quoi? Fermer la vanne du réservoir ou actionner le disjoncteur principal. C'est logique. Si nous privons les péchés de la chair de leur source d'énergie, nous les combattrons efficacement. Encore une fois, pensez à l'analogie des avions, des trains ou des voitures. S'ils n'ont pas de carburant dans leur réservoir, ils ne peuvent aller nulle part. Eh bien, frères et sœurs, l'une des façons d'y parvenir est celle qu'a employée Christ. Le jeûne. Le jeûne est un moyen puissant de soumettre notre corps, comme l'a suggéré l'apôtre Paul. Nous le faisons savoir à notre chair. Lorsque nous jeûnons, mes frères, nous ne nous rapprochons pas seulement de Dieu. Nous faisons savoir à notre chair, comme l'a fait Christ, qui est le chef. Nous réaffirmons à notre chair que Dieu, le Père, est le chef. Rappelez-vous, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Galates 5. Une dernière chose sur ce passage de Galates 5. Simple, mes frères, la simplicité qui est en Christ. Verset 16, nous le savons. J'ai dit que nous y reviendrions plus tard dans le message. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est pourquoi je ne l'ai pas abordé plus tôt. Je l'aurais révélé trop rapidement. Car la chair convoite contre l'esprit, et l'esprit contre la chair. Et ceux-ci sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, pensez au Christ, lorsque nous avons lu tout à l'heure, Matthieu 4, conduit par l'esprit dans le désert, vous n'êtes pas sous la loi lorsque vous êtes conduits par l'esprit de Dieu. Maintenant, les œuvres de la chair. Et ensuite il énumère toutes celles que nous avons énumérées, dont je vous parle. Je veux le répéter, frères, à ce stade. Comme par le passé, ceux qui font de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. En fin de compte, tous les autres moyens que nous pouvons imaginer, comme fuir et jeûner pour fermer la porte à la convoitise de la chair qui coule dans nos vies, doivent être soutenus par l'Esprit de Dieu qui nous guide. Alors, qu'est-ce que marcher selon l'esprit? Qu'est-ce que cela signifie? Si nous marchons selon l'esprit, nous fermons la porte à la convoitise de la chair dans nos vies. Eh bien, verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Et ceux qui appartiennent au Christ ont crucifié, quoi? La chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons dans l'esprit, marchons aussi dans l'esprit. Mes frères, lorsque le fruit de l'esprit est présent dans nos vies, nous pouvons savoir que nous avons réussi à éliminer les désirs de la chair dans nos vies, car deux objets ne peuvent occuper le même espace en même temps. Si les fruits de l'Esprit de Dieu sont évidents dans votre vie, il sera évident que les convoitises de la chair sont absentes. C'est pourquoi il est si important que nous exercions l'Esprit de Dieu. Lorsque nous exerçons l'Esprit de Dieu, que pouvez-vous espérer voir d'autre dans votre vie? Je peux vous dire, vous pouvez savoir si vous exercez l'Esprit de Dieu par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la foi, La tempérance. Mes frères, tirer les leçons de l'erreur d'Ève et suivre l'exemple du Christ nous aidera à éliminer ce qui alimente le péché issu des convoitises de la chair. Terminons par l'orgueil de la vie. Vous serez comme Dieu. Une définition, l'exaltation de soi. Se mettre en avant, avoir un ego surdimensionné, vouloir impressionner ou être supérieur. Le désir principal est d'être admiré, élevé ou reconnu comme important. Peu importe à quel degré. Si vous ressentez ce désir, quel qu'il soit, c'est un signe avant-coureur que l'orgueil de la vie s'insinue dans votre vie. Parmi les péchés que vous verrez, il y a la vanité, l'arrogance, l'hypocrisie, le fait de se glorifier de ses réalisations ou de sa position, la résistance aux conseils et aux corrections, la rébellion, les commérages. Les commérages? Bien sûr, ce que j'ai à dire est important. C'est tellement important que je ne peux pas me taire. Vous devez savoir ce que je sais, car lorsque je vous le dirai, vous verrez que je suis une personne importante, une source d'informations importante. Les murmures, mon opinion, mon jugement sur les autres, mes plaintes, cela doit faire mal, car j'ai raison sur ce point. Tout cela relève de l'orgueil de la vie. Bien sûr, nous ne tombons pas dans ce piège, n'est-ce pas, mes frères? Oui, cela nous arrive parfois. Je pense que c'est la source d'énergie la plus dangereuse des trois. C'est comme l'oxygène liquide et l'hydrogène, les combustibles utilisés pour lancer les fusées SpaceX. L'oxygène liquide et l'hydrogène sont suffisamment puissants pour propulser des fusées SpaceX d'un à 10 millions de livres hors de l'attraction gravitationnelle de la Terre. Si cette source d'énergie n'est pas fermée, la fierté de la vie, mes frères, elle a conduit beaucoup de gens à se lancer hors de l'Église, ou Dieu les a lancés hors de l'Église. Ève a vu que le fruit était désirable pour rendre sage et devenir comme un dieu, et personne n'allait l'en empêcher. C'est Satan en résumé. Nabuchodonosor, humilié pendant 7 ans, pourquoi? Parce qu'il dit, « J'ai bâti ce royaume avec ma puissance et ma force. » Que dit Satan? « J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je monterai. » Je serai comme, non, rayez cela, je serai le plus haut. Satan veut finalement que vous pensiez, même si vous n'en êtes peut-être pas conscient, que vous êtes Dieu, que vous prenez les choses en main, que vous décidez par vous-même, que vous êtes autosuffisant. Eh bien, voici ce que vous pouvez faire. Humiliez-vous. Humiliez-vous comme Christ l'a fait. Quoi qu'il en coûte. Voici une façon de le faire, dans Philippiens chapitre 2, alors que nous arrivons à la fin. Philippiens 2 et verset 3. Que rien ne se fasse par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que chacun, dans l'humilité, estime les autres supérieurs à lui-même. Que chacun ne cherche pas son propre intérêt, mais aussi celui des autres. Mes frères, plus nous assumons de responsabilités dans notre travail, par exemple, ou dans notre emploi, plus cela exige une grande humilité d'esprit. Vous savez, avoir une faible estime de soi a mauvaise réputation. Le monde enseigne et dorlote les gens afin qu'ils aient une forte estime d'eux-mêmes. Ce qu'ils font sans s'en rendre compte, et qui fait le jeu de Satan, c'est de créer des mini-dieux partout. C'est pourquoi nous voyons la société telle que nous la voyons. La vanité, rabaisser les autres pour s'élever soi-même. C'était l'une des pires choses, mon père détestait cela. Il disait, « Si tu dois rabaisser quelqu'un d'autre pour t'élever toi-même, tu n'es pas mon fils. » Il était très strict à ce sujet. Se vanter quand on gagne, blâmer les autres quand on perd. Le monde est séduit, ne soyons pas comme lui. Plus nous nous efforçons d'aider les autres, moins nous avons besoin d'estime de soi par rapport à l'estime que nous avons pour ceux que nous aidons. Abaissez votre estime de soi afin qu'elle soit inférieure à l'estime que vous avez pour tous les autres. C'est ce que cela signifie. Certaines des personnes les plus moralisatrices que j'ai rencontrées dans ma vie, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Église, ont tendance à être les plus généreuses ou les plus serviables. Nous devons faire preuve de prudence même lorsque nous sommes généreux ou serviables. Comment Christ a-t-il conclu sa parabole sur le pharisien et le publicain qui se trouvaient tous deux dans le temple? Tous deux dans le temple, remarquez bien. Après avoir décrit le pharisien qui remerciait Dieu, tout en se plaignant que les autres n'étaient pas aussi serviables, généreux ou religieux que lui, et qu'il n'aimait pas ceux qui n'étaient pas aussi chrétiens. Je veux dire aussi juifs ou religieux que lui. Christ a conclu que tous ceux qui s'élèvent dans leur esprit ou en apparence seront abaissés, et que ceux qui s'abaissent seront élevés. Mes frères, humiliez-vous. Humilions-nous. Étudiez simplement l'humilité et la modestie pour vous aider. Premier épître de Pierre, chapitre 5. Juste quelques pages plus loin. Nous nous habillons chaque jour pour des raisons que nous comprenons tous. Alors, pourquoi ne pas revêtir l'humilité avant de quitter notre chambre et d'aller dans les autres pièces de la maison pour interagir avec notre famille? Pourquoi ne pas revêtir l'humilité et nous revêtir d'humilité avant de quitter la maison chaque jour? Nous nous habillons chaque jour. Vous souvenez-vous de vous revêtir d'humilité? Voici ce que dit l'apôtre Pierre au verset 5. Oui, soyez tous soumis les uns aux autres, et revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux et donne la grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment opportun, en lui remettant tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobre, soyez vigilant, car votre adversaire, voici, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui il dévorera. Ou je pourrais dire, nous inciter à ouvrir les vannes de l'orgueil de la vie. Mes frères, nous nous habillons tous les jours, mais nous devons nous revêtir d'humilité. Les yeux d'Adam et Ève s'ouvrirent, et ils découvrirent leur nudité, mais ils ne découvrirent pas leur orgueil de la vie, car chacun se tint devant Dieu et blâma quelqu'un d'autre pour ses péchés. Dieu a vu à travers leurs feuilles de figuier. Ils étaient toujours nus. L'orgueil de la vie, le carburant le plus puissant, coulait sans discontinuer dans leur vie. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas laisser cela nous arriver. Une dernière écriture, Romains 12. En tant que ministre, juste une réflexion ici, nous constaterons que les personnes qui n'ont pas renoncé à l'orgueil de leur vie ne veulent pas se soumettre à des conseils ou à des corrections. Elles ne s'humilient pas. Si nous essayons de les corriger ou de les conseiller pour quelque chose qu'ils ont fait ou qu'ils font, en essayant de les amener à fermer leur propre vanne, ils pensent, « Qu'est-ce que vous en savez ? Je connais ma situation mieux que vous. » Une réflexion à méditer, alors que nous terminons. Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les miséricordes de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » J'espère, mes frères, que ce message a contribué d'une manière ou d'une autre à vous transformer, à vous faire penser différemment, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Verset 3, car je dis, par la grâce qui m'a été donnée, à chacun d'entre vous, de ne pas avoir de lui-même une opinion plus haute qu'il ne doit en avoir, mais d'avoir une opinion sobre, selon la mesure de foi que Dieu a donnée à chacun. Frères et sœurs, Pour couper court au puissant moteur qu'est l'orgueil de la vie, obéissez à Dieu jusqu'au bout, à travers chaque épreuve, chaque tentation, voire chaque torture, comme l'a fait Christ. Dans l'humilité d'esprit, assurez-vous que votre estime de vous-même est toujours inférieure à l'estime que vous avez pour les autres. Ne soyez pas arrogant. Soyez attentif aux autres. Soyez aussi généreux et serviable que possible, sans vous comparer à ceux qui ne le sont pas ou sans les juger. Et enfin, puisque nous nous habillons tous les jours, revêtons-nous chaque jour d'humilité, et Dieu nous accordera ses grâces. Si nous faisons ces choses, nous éviterons les péchés alimentés par l'orgueil de la vie, ayant appris une fois de plus les leçons tirées de l'erreur d'Ève et de l'exemple parfait du Christ. Mes frères, une partie importante de la Bible est consacrée au sujet du péché, et à juste titre. La parole de Dieu le définit, donne des exemples clairs et met en garde contre son impact et ses conséquences. Mais nous avons appris que le péché est impuissant sans ses sources d'alimentation, sans les sources qui l'alimentent. Dieu nous donne les moyens de couper les trois pour nous assurer que nous sommes dans un état béni et que nous recevons la couronne de vie.